12h30, 13h, chaque jour sur RKS, c'est l'invité du jour.
Bienvenue, bienvenue chers auditeurs de RKS 97FM dans votre émission L'invité du jour qui cette semaine invite la Maison des Familles à venir s'exprimer à l'antenne en direct sur RKS 97FM. Je suis en compagnie de sa directrice, Madame Elisabeth Michel. Madame, bonjour.
Bonjour.
Et je suis en compagnie également d'une maman qui fréquente l'établissement, c'est Adja. Adja, bonjour.
Bonjour.
Alors bienvenue, bienvenue sur RKS 97FM. On va parler de parentalité, on va parler de ces questions qui nous touchent tous, les familles de Grenoble. Et d'ailleurs, la Maison des Familles a été fondée il y a 10 ans maintenant. On fête le 10e anniversaire de cette structure et on va en parler pendant cette demi-heure à venir. Madame Elisabeth Michel, donc, vous êtes la directrice de la structure, la Maison des Familles. Pourquoi a été créée cette Maison des Familles en 2009? Sur quel constat, sur quelle envie et besoin peut-être?
Alors, la Maison des Familles de Grenoble a été créée suite à des rencontres. Première rencontre en 2007, le Secours catholique de l'Isère organise une semaine de vacances pour femmes seules avec enfants. J'interviens dans cette semaine de vacances-là et je fais le constat bouleversant que ces femmes qui sont présentes là ont tout un sentiment profond d'échec ou de disqualification par rapport à leurs enfants. Elles veulent absolument éduquer très bien leurs enfants et en même temps, elles ont très peur en permanence du jugement des autres sur la façon dont elles éduquent leurs enfants. Voilà, moi, suite à cette rencontre-là qui m'a vraiment bouleversée parce que j'ai vraiment pris la mesure de la souffrance de ces femmes, j'échange avec le Secours catholique pour leur dire que, je pense qu'il y a une urgence de créer des espaces éminemment bienveillants pour ces personnes-là. Apprenti d'Auteuil, structure dans laquelle je travaille, dont la vocation profonde et l'éducation des jeunes, s'est aussi emparée avec le Secours catholique de ce constat-là. Et ensemble, on a donc créé cette structure plus spécifiquement pour des familles, des parents et des enfants qui sont en situation de précarité. Précarité économique, sociale, nous on n'est pas fixé sur le type de précarité, en disant que si on est trop seul ou si on vit dans un contexte monétaire très difficile, cela empêche ses parents de pouvoir éduquer leurs enfants tels qu'ils le souhaitent. Mmh. C'est ça vraiment l'idée de fond de la Maison des Familles de Grenoble.
Y avait-il une sorte de zone grise, justement, sur ces publics particuliers à l'époque, en 2009, qu'il n'y avait pas vraiment de politique et publique, ou institutionnelle, ou associative peut-être, qui abordait spécifiquement cette parentalité dans une recomposition aussi de la famille qu'on connaît aujourd'hui, avec des femmes isolées par exemple, des familles composé, et puis une précarité économique. Et évidemment, on sait bien que la crise est passée par là et que les plus fragiles en subissent pleinement les conséquences.
Alors, je sais pas si on peut parler de zone grise, je suis pas sûre. Enfin, je pense que cette question-là est vraiment portée par toutes les institutions. Enfin, il y a quelques années, la CAF a fait un audit sur les actions de parentalité sur Grenoble. 84 actions de parentalité. Je crois que les pouvoirs publics ont vraiment cette attention-là. Peut-être que la question, c'est sur la forme. Nous, je pense que nous avons vraiment travaillé sur la question de qu'est-ce que ça induit dans les comportements des personnes de vivre en situation de précarité. Et donc, du coup, on a monté une organisation avec cette connaissance-là de la précarité. Dans notre jargon qu'on appelle les logiques de comportement liées à la précarité, qui sont par exemple ce sentiment profond de ne pas être tout à fait comme les autres, ce sentiment par moment d'avoir un peu honte par rapport à ses enfants, parce qu'on ne peut pas tout à fait faire comme les autres, sentiment aussi que c'est quand même très difficile de changer. C'est pas très bien ce qu'on vit, mais le changement, c'est un risque. Voilà. Et aussi, par exemple, le rapport au temps. Quand on vit en situation de précarité, on vit aujourd'hui. Et c'est un vrai problème sur la question de l'éducation, parce que sur la question de l'éducation, on en prend au moins pour 18 ans.
Oui, facilement, oui, facilement.
Et ce qui fait que, par exemple, je donne un exemple très concret sur la question du temps. Si vous dites à une famille qui vit avec moins de 900 euros par mois au mois de février. Qu'est-ce que tu comptes faire avec tes enfants cet été, puisque c'est à peu près le moment où on prépare les inscriptions pour des camps? Cette famille, ce parent-là, il va nous regarder en disant, mais attends, on est au mois de février, là. Tu me parles du mois de juillet, on n'y est pas encore. Et nous, on a souvent tendance à imaginer que, du coup, quand ils vont demander une inscription au mois de juin et qu'on leur dit c'est trop tard, on a assez facilement tendance à se dire, bah, enfin, quand même, ils s'occupent pas bien de leurs enfants. Non, c'est simplement que ce rapport au temps-là est très adapté à la précarité, mais et qui crée de l'empêchement sur l'éducation, parce qu'effectivement, là, par exemple, ça va créer de l'empêchement sur des inscriptions, sur des camps de vacances, voilà. C'est ça l'idée.
Est-ce qu'on s'aperçoit justement qu'au fil du temps, sur ces 10 années d'expérience, de retour, d'expérience que vous avez, le contexte justement social et économique de la France, puisqu'on parle de ce territoire-là particulièrement, a changé véritablement et a bouleversé l'équilibre fragile qu'il pourrait y avoir dans certaines familles aujourd'hui? C'est une marche compliqué à suivre pour des personnes qui sont justement comme ça à la frontière d'un monde un peu compliqué.
Alors,
Elisabeth Michel.
Moi, ce que je pense, c'est que effectivement, notre monde aujourd'hui devient de plus en plus compliqué, devient de plus en plus inaccessible. Pour prendre un exemple simple, le fait d'avoir généralisé les démarches par ordinateur rend les choses éminemment compliquées, même s'il y a un certain nombre d'associations qui sont emparées de ça et qui effectivement font des propositions pour rendre l'accès numérique pour tous.
La fracture numérique.
Oui, par exemple ça c'est très compliqué. Les démarches aussi sont très compliquées, donc nous on espère qu'effectivement avec ce qui va se passer peut-être sur le revenu universel, il y aura une simplification des démarches. Nous, on l'appelle de nos voeux les plus profonds. Mais il y a en permanence des sortes d'interactions qui font que des personnes qui ont besoin de prendre rendez-vous à la préfecture, par exemple, pour avoir un renouvellement de titre de séjour, voilà, c'est impossible ou presque. Donc, ils n'ont pas leur récépissé de titre de séjour. Donc, la CAF va suspendre, par exemple, leurs allocations, parce que c'est comme ça, on est organisé comme ça. Mais objectivement, ces personnes, s'il y a une suspension, par exemple, des allocations de la CAF, elles n'ont plus rien. Elles sont dettes vis-à-vis de leur bailleur social. Mais ce n'est pas le fait des personnes aux endroits. C'est notre système d'organisation qui s'est complexifié et qui laisse au bord de la route de plus en plus de gens qui n'ont pas tous les outils pour pouvoir appréhender cette complexité-là.
Très bien. Alors, la maison des familles est située pour celle de Grenoble, puisqu'il y a 13 maisons des familles qui ont été réalisées, construites depuis 10 ans maintenant, dont une qui est sur l'île de la Réunion, il faut le dire aussi, que vous, en dehors du territoire métropolitain.
Et bientôt une à Cayenne.
Et bientôt une à Cayenne, donc, pour la 14e, n'est-ce pas? Vous êtes, vous, 53 Place Saint-Bruno, donc dans le cœur de la ville de Grenoble. Quels sont les services, tout simplement, que vous mettez à disposition? Quels sont les pans que vous développez? Alors, service, c'est un grand mot, en tout cas. Quelles sont les zones d'accueil et les questions que vous pouvez proposer au sein de la maison des familles, justement?
Alors, l'idée, c'est justement de ne proposer aucun service. Si vous poussez la porte de la maison des familles et si vous dites « je voudrais un atelier couture », on va vous accompagner pour que vous alliez à la maison des habitants, près de chez vous, qui fait un atelier couture. Nous, on développe plutôt l'idée de dire « on veut absolument créer un espace où les gens vont se rencontrer, prendre du temps ensemble ». Et là, aujourd'hui, par exemple, mardi, nous, on est en studio, mais il y a des parents qui, ce matin, sont arrivés vers 9h, 9h30, et parce qu'ils savent que le mardi, il y a un repas, qui sont allés faire les courses et qui sont certainement maintenant en train de manger. Pourquoi ça? Parce qu'on pense que c'est très important de mettre l'accent sur la relation. La première étape, même dans le soutien de la parentalité, c'est d'établir de la relation.
La relation humaine.
Oui. Et quand on a établi ça, voilà. Ensuite, on peut aller sur des sujets importants pour les parents, importants aussi pour nous. Cet après-midi, par exemple, nous, et on va soumettre ça aux parents, on a le goût de reprendre la question bon, comment ça s'est passé la rentrée à l'école? Est-ce que vous êtes allé aux réunions avec les réunions de rentrée? Est-ce qu'il faut qu'on vous accompagne sur ces réunions-là? Voilà. Mais peut-être que, Adja, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ce qui se passe à la maison des familles?
Donc, j'avoue, vous êtes une maman, c'est ça?
Ouais, je suis une maman.
Vous avez fréquenté la maison des familles?
Oui.
Qu'est-ce que vous avez à dire de cela, si vous voulez vous exprimer sur la question? En quoi ça vous a été utile à un moment donné? C'est dans la rencontre d'autres parents, par exemple? C'est ça qui vous a plu dans le lieu?
Oui.
Oui.
Donc moi, je suis maman depuis presque 3 ans.
Oui.
D'abord. Et je suis rentrée là-bas, je l'ai aimé beaucoup, la maison de famille. Et donc je la regardais, parce que moi je suis algérienne.
Oui.
Donc avant on n'est pas, je la connais personne, etc. Mais que je rentrais à la maison de famille, je la connais plein de mamans, dans tous les pays. Et on était très contentes, etc. On partage tous les jours là-bas.
Mmh.
Et
en fait, c'est plus un lieu de rencontre. En fait, c'est ce que vous me dites, c'est que ça permet de discuter avec d'autres mamans, par exemple, et que vos enfants rencontrent d'autres enfants, et que vous mélangez un petit peu les questions, les réponses, comment on peut s'aider.
Ouais, même le manger, tout. On a fait toutes les choses ensemble, on a partagé tout.
D'accord.
Donc c'est pour ça, on a aimé la maison de famille beaucoup.
Oui. Et ça vous a aidé justement pour élever votre enfant?
Ouais.
Oui.
Donc pour moi, j'ai un fils, pour le moment j'ai 3. Mais la fille, la grande, donc c'est moi que je suis compliquée avec ma fille. Mais quand j'ai rentré à la maison de famille, donc je la regardais, elle était trop bien. Donc elle indiquait très bien, etc. Grâce à tout le monde, grâce à Babette, Marc, tout le monde. Mais maintenant, je regarde tous les enfants, il était bien.
D'accord. Donc, vous êtes prestataire et donc vous conseillez justement aux familles peut-être de venir à la maison des familles s'ils ont besoin d'avoir un petit coup de main, de rencontrer d'autres personnes tout simplement. Parce que, effectivement, la rencontre humaine, le fait de pouvoir échanger sur les expériences de chacun, parce que élever un enfant, c'est pas facile. Hein, on sait bien que dans la société dans laquelle on est, en plus, il y a beaucoup de sollicitations de consommation et de choses comme ça. Et puis, quand on n'a pas forcément le budget pour assouvir tous ces besoins, ça crée beaucoup de frustration de la part et des parents et des enfants. Et vous travaillez aussi là-dessus avec vos équipes, Elisabeth Michel, de dire qu'effectivement, dans ce monde surexposé à la consommation, etc., il y a quand même d'autres valeurs et d'autres moyens d'assouvir ces besoins de rencontre qu'à travers la consommation pure et dure.
Ah oui, alors nous, c'est sûr que la question de la consommation, à la fois parce qu'on a un budget assez restreint, et aussi parce qu'on pense que ce qui est premier, c'est quand même et la relation, et aussi individuellement et collectivement de faire des expériences. Nous, à des parents, on propose, on dit, tu vois, là, effectivement, ton fils ou ta fille, ils n'aiment pas les légumes. Est-ce qu'on peut essayer de faire l'expérience? On en met un petit peu dans l'assiette, avec des pâtes. Adja, à côté, elle rigole parce qu'elle voit très bien de quoi je parle quand je dis ça. Et aussi, en fait, on est quand même dans une sorte de tension, nous. C'est-à-dire que d'un côté, on ne veut pas proposer des choses qui sont simplement dans le registre de la consommation. Mais je vous donne un exemple. L'an dernier, on a eu la chance, grâce à un financement privé, de pouvoir partir une journée et on devait faire un voyage. Et on a donc décidé collectivement avec les parents et puis l'équipe qu'on irait à la grotte Chauvet.
Mmh.
Pourquoi ?
En Ardèche.
En Ardèche. Pourquoi la grotte Chauvet ? Parce que nous, ça nous paraissait super important que les parents et les enfants qui fréquentent ce lieu puissent connaître ce lieu quand même unique au monde, et que pour nous c'est très important d'avoir aussi une sorte d'ambition dans les projets et de ne pas être simplement dans des projets consuméristes. Voilà, on a préparé cette journée-là avec les parents, avec les enfants, on va là-bas, les guides ont été bluffés par les enfants en disant jamais on a eu des enfants aussi intéressés par une visite. Voilà. Et nous, on redit aux enfants, aux parents après, mais vous voyez, c'est assez unique comme lieu. Enfin, vous pouvez en parler à l'école, quand vous rentrerez à l'école et tout. Et notre satisfaction au bout de ça, c'est 3 parents qui viennent nous voir et qui nous disent, en fait, la maîtresse a demandé à mes enfants, donc 3 fois, dans 3 écoles différentes, de faire un exposé sur ce voyage-là à la Grande Chauvet. Pour nous, ça, par exemple, eh bien, cette expérience-là nous dit, tout le monde a changé de logique. On est sorti d'une logique de la honte liée à la précarité à une logique de fierté. On a vécu un événement assez exceptionnel qui est quand même d'aller visiter ça. Les instituteurs ont saisi l'importance que ça avait et donc du coup ont mis les enfants en valeur pour dire bah, racontez-nous cette expérience-là.
Oui, c'est redonner une position finalement d'acteur. Hein, des personnes, des publics, et pas seulement de personnes ayant besoin d'eux ou qui sont en demande d'eux. C'est eux, ils sont aussi force de proposition à un moment donné. Ils ont cette capacité, et c'est ça qui est le plus intéressant là-dedans, c'est de dire que chacun, homme, femme, enfant, adulte, moins jeune ou plus vieux, a cette capacité d'être force de proposition, d'avoir un message à délivrer. On revient tout de suite sur les ondes RKS avec Elisabeth Michel et Adja de la Maison des Familles de Grenoble, qui fête ses 10 années. Et on se retrouve tout de suite après une première pause musicale sur RKS 97 FM dans votre émission L'Invité du Jour.
You can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy.
Chaque jour sur RKS, c'est l'invité du jour.
De retour sur RKS en direct dans votre émission L'Invité du Jour qui donne aujourd'hui la part belle à la Maison des Familles pour son 10e anniversaire, 6 au 53 Place Saint-Bruno à Grenoble et qui est la maison avec et pour les familles en compagnie d'Elisabeth Michel, sa directrice, qui nous parle de parentalité et aussi de ce lieu de vie, de chaleur humaine qu'ils essaient de développer avec les équipes. On a eu le témoignage de Adja, une maman qui est avec nous en studio et qui nous a parlé aussi eh bien, des bienfaits de ce lieu. lieu, tout simplement, de dire que, bien sûr, les questions de parentalité concernent toutes et tous, et que quand on a des difficultés dans sa vie quotidienne, pour X raisons, sociales, culturelles, économiques, c'est difficile d'avoir des conseils, d'être accompagné sur certains aspects de la vie quotidienne. C'est bien en cela que la Maison des Familles essaie de trouver des solutions en collaboration. C'est ce que vous disiez, Elisabeth Michel, hein, c'est que vraiment, c'est à partir du dialogue, de la bienveillance aussi, parce que c'est un mot qui n'est pas vain. Les Beatles nous chantaient « All you need is love », All you need is bienveillance aussi. Hein. C'est aussi ça, de dire qu'avoir une écoute, avoir une manière aussi de savoir accueillir. C'est aussi ça, les premiers contacts qu'on peut avoir avec une personne, un public qui vient à la Maison des Familles. Vous avez dû travailler justement cet aspect de l'accueil. La première impression, la première rencontre, le premier contact avec une personne qui viendrait vous voir. C'est ça que vous travaillez en premier lieu ?
En fait, quand vous arrivez à la Maison des Familles, comme ça porte son nom, vous arrivez dans une maison. Il n'y a pas de guichet, vous arrivez, il y a un salon, une cuisine, une salle de jeu pour les enfants, un peu grande, plus grande que ce qu'on peut avoir chez nous. Mais l'idée, c'est effectivement de se dire, on va dans un premier temps faire une sorte de rencontre de personne à personne, et non pas d'une institution à une personne, non. Enfin, c'est vraiment très très important, j'insiste là-dessus, c'est la première chose. Et je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure aussi. Pour nous, ce qui est très important aussi dans notre organisation, c'est que chaque parent qui vient, chaque papa, chaque maman, chaque enfant aussi, ils ont une part à part entière dans le fonctionnement et dans l'élaboration de ce qui se passe dans ce lieu. On ne fait pas ça du tout pour eux, on fait ça avec eux. Pour nous, c'est très important de pouvoir être en interaction, et c'est ensemble qu'on élabore soit des projets. Je vous donne un dernier exemple. On a une structure qui s'appelle un conseil de maison, qui se réunit une fois par mois, où les parents vont échanger sur des questions d'organisation liées à la maison, mais aussi sur des projets. Et Adja Kiptrouchi, qui est à côté de moi l'an dernier, en conseil de maison, on dit par exemple, non, il faut que la maison, elle soit ouverte en journée continue le vendredi, parce que nous, ça ne nous arrange pas. Est-ce que nous, ça nous arrangeait que la maison soit ouverte en journée continue le vendredi ? Pas du tout, parce que on manque de bénévoles sur le vendredi. Mais ça, c'était quelque chose qui a été entendu. On a travaillé et avec les parents et avec l'équipe pour dire, oui, ok, là il y a une demande en termes d'organisation par des parents, est-ce qu'on peut y accéder ? Et on a fait un mois d'essai, et ensuite on a validé définitivement cette demande-là. Pour nous, c'est très très important. Et on fait la même chose avec les enfants, c'est-à-dire qu'on a un conseil d'enfants par trimestre, et sur le dernier conseil d'enfants, il y a un enfant qui nous dit, je ne comprends pas pourquoi à la Maison des Familles, on ne mange que des pommes. Parce que les bananes, c'est quand même très bon, et on pourrait manger des... Et nous, on a trouvé ça absolument tout à fait intéressant qu'un enfant ait compris que cet espace-là, c'était aussi le leur. Alors, vous imaginez bien que la semaine d'après, il y avait des bananes.
Il y avait des bananes à la Maison des Familles. Des pommes, des bananes, des noix. Donc, très bien. Justement, sur ces questions de parentalité, il y a aussi un espace de médiation que vous aviez aussi au sein de votre structure, qui permettent à des familles en rupture, parce qu'effectivement, dans ces familles recomposées, des fois, ça ne se passe pas super bien entre le papa et la maman. Donc, vous avez des professionnels qui sont là, qui sont qualifiés pour justement accompagner cette parentalité dans la diversité un petit peu, parce que c'est des périodes qui sont compliquées et pour les parents et pour les enfants. Comment ça se passe tout simplement ?
Alors oui, merci de préciser qu'effectivement, on a un service de médiation familiale. Ce service-là, on l'a ouvert sur la demande de la CAF. Parce que c'est un peu le même esprit qu'il y a dans la Maison des Familles Soutien de la Parentalité, parce qu'on distingue un peu les deux. Et là, effectivement, on a une médiatrice familiale qui intervient à mi-temps et pour pouvoir accompagner des couples en rupture, pour qu'ils puissent ensemble trouver des solutions pour que ça se passe au mieux. Pour chacun d'entre eux, ils ne sont plus un couple conjugal, mais ils restent un couple parental. Et comme vous le disiez, souvent, il y a des difficultés. Et donc ce lieu-là est un lieu dans lequel ils vont essayer ensemble, un papa et une maman, d'élaborer de la solution par rapport liée à leur rupture. Et aussi, on va de plus en plus sur, développer ce qu'on appelle des médiations familiales avec des adolescents, c'est-à-dire que des familles où il n'y a pas de rupture conjugale, mais où il y a de gros problèmes avec les adolescents. Donc aujourd'hui, il nous est demandé de plus en plus de porter attention à ça et d'informer les personnes que c'est possible de demander une médiation familiale avec son adolescent, un père, une mère et son adolescent, pour essayer de régler des conflits qui peut y avoir au sein de la famille.
Oui, parce que c'est une période compliquée, on sait bien, dans l'âge, et pour certaines familles. Alors ça n'a rien à voir avec, on pourrait dire, le niveau social, comme on dit, la classe sociale, que sais-je. C'est dans toutes les familles.
Complètement.
C'est comme, malheureusement, la violence conjugale, ça n'a pas de... Il n'y a pas de catégories sociales qui sont plus en proie à ce fléau. Ce qu'il faut dire également, Elisabeth Michel, c'est qu'effectivement, cette question de parentalité est absolument transversale. C'est qu'elle peut concerner le recours au droit, la santé, l'éducation, le logement, bien évidemment. Et vous êtes donc en cheville, on pourrait dire, avec des interlocuteurs qui peuvent répondre directement à des questionnements. Questions pratiques, juridiques, donc la CAF, la Caisse d'allocation familiale, la Sécurité sociale, des questions... Parce qu'on ne peut pas élever son enfant si on n'a pas un toit, si on est en mauvaise santé, si on n'a pas de quoi se nourrir, si on est malade, etc., etc. Donc vous avez une vision comme ça absolument transversale. Vous nouez comment des partenariats, vous renvoyez vers des lieux ressources qui sont spécialisés dans tel ou tel domaine, c'est ça, de la vie quotidienne des gens.
Nous, notre chance, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'on, comme on n'offre en soi aucun service de ça, nous, on veut absolument que ces personnes, elles puissent, enfin voilà, travailler avec leur travailleur social, par exemple, puisque c'est souvent leur premier interlocuteur. Et nous, si les personnes ne veulent pas ou n'ont pas de travailleur social, on va tout faire pour qu'elles renouent ce lien-là, parce qu'on sait autrement que c'est éminemment préjudiciable pour ces personnes-là. Et nous, on accompagne simplement sur, enfin voilà, retour au droit, enfin, à monter un dossier d'AME, de CMU, enfin voilà, on va les aider, on va leur dire, mais... Tout ce qui est des questions juridiques, on va les orienter vers des gens dont c'est la compétence. Et nous, on est simplement un endroit où on donne de l'information et on accompagne. Et on accompagne si nécessaire. Parce qu'on pense que, dans un certain nombre de cas, c'est très compliqué de faire ces démarches-là tout seul. Et on va pouvoir simplement aller à un rendez-vous chez l'assistante sociale avec le parent qui le souhaite. On va pouvoir aller à la Sécurité sociale, à la CAF. Voilà, on accompagne. Oui.
Vers les institutions qui
vers
sont...
les institutions compétentes. Et nous, on est très vigilants de ne pas faire ce que les autres font et ce que les autres font bien. On ne veut pas faire ça. Nous,
oui,
on
est... Vous ne situez pas au service public ou aux différentes institutions qui sont en charge de ces questions-là.
Oui, parce qu'on pense que ça serait très préjudiciable pour les personnes et que la vraie vie, c'est pas ça. Enfin, la vraie vie, c'est de pouvoir s'emparer des services qui existent et puis de faire avec, quoi. Enfin, alors, même si par moment, on n'est pas complètement satisfait, mais c'est comme ça. On est tous soumis à ça et ces personnes-là, comme vous et moi, quoi.
Oui, tout à fait, il n'y a pas de différence. Dire également que la Maison des Familles est ouverte à toutes et à tous, c'est-à-dire que quel que soit le statut que l'on a, qu'on soit étranger, pas étranger, qu'on soit en règle, pas en règle, qu'on soit jeune ou moins jeune, qu'on soit... c'est une ouverture.
Voilà, nous, notre habitude, c'est de dire, nous, à la Maison des Familles, on ne reçoit que des parents. On ne reçoit pas des sans-emploi, sans logement, sans papier. On ne reçoit que des parents. Le seul critère pour nous, pour franchir la porte de la Maison des Familles, c'est d'être parents d'enfants. Ou d'être en devenir de parents, c'est-à-dire d'être enceinte. C'est notre seul critère. Le reste, nous, ce qui est important pour nous, c'est la personne que nous avons en face de nous, sa situation.
On a bien compris. Alors, pour conclure, parce qu'on arrive sur la fin de notre émission, le temps passe vite, tout de même, sur RKS 97 FM, dire que vous recherchez des bénévoles quand même, il faut peut-être en profiter. Est-ce que vous êtes toujours à la recherche d'âmes volontaires et militantes et bienveillantes pour accompagner les familles au quotidien?
Oui, bien sûr. On recherche toujours des bénévoles. Oui.
Donc, on s'adresse sur votre site, c'est Maison des Familles en un mot au pluriel .fr. Là, vous aurez toute la documentation sur les différents pans que vous développez au sein de votre structure. Dire également que c'est en collaboration que se font les choses les mieux, puisqu'en arrivant à toucher véritablement le questionnement, le besoin et puis l'envie de partage, puisque là, on est sur des thématiques sérieuses, mais c'est aussi du partage convivial, c'est-à-dire de la culture, du loisir, de la gastronomie. Tout ça, c'est des petits plaisirs qu'il ne faut pas bouder, parce que c'est à travers cela aussi souvent qu'on rentre dans un contact humain tout simple autour d'un petit café, une pâtisserie, un repas partagé. C'est comme ça qu'on arrive à nouer des liens tout à fait naturels. Et puis petit à petit, eh bien, on décèle peut-être des besoins plus pointus et plus ciblés sur tel ou tel aspect de la vie quotidienne. Merci à vous, Elisabeth Michel.
Est-ce que j'ai le temps de rajouter une chose?
Oui,
rendez-vous ce soir dans le hall de la mairie à 18h pour le vernissage de notre exposition qui s'intitule La Maison des Familles s'expose. Merci de nous avoir reçus.
Merci à vous. On se donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures radiophoniques avec le département de l'Isère qui nous présentera les journées du patrimoine. Vous êtes sur RKS 97 FM.